De retour dans ce mag pour vous proposer la quatrième fête du feu et de la terre du côté de Nègrepelisse sur l'esplanade du château avec des couteliers, des potiers, céramistes, marchés d'artisans. Il y aura un petit peu de tout, des démonstrations de damas, tatara ou de forge. Alors on va tout vous expliquer avec Thierry Rénal. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous êtes coutelier vous?
Moi je suis coutelier à Nègrepelisse, oui.
Et c'est vous qui êtes à l'initiative de cette fête?
Enfin, plus ou moins, c'est une chose qu'on a montée à la base avec la mairie de Nègrepelisse. Et puis bon, c'était parti pour être fait une année. Et puis comme ça a fonctionné, on nous a demandé de continuer. Donc on est encore là, quoi.
Et puis vous doublez à chaque fête?
Ben chaque année, oui, finalement, on fait quasiment le double. Ouais. Donc cette année, c'est pareil. Là, on s'est retrouvé. L'an dernier, on devait être entre 40 et 50 exposants. Et cette année, on va tourner entre 110 et 120, quoi.
On va faire un petit peu dans l'ordre au niveau des exposants. Donc il y a le marché d'artisans où là bon bah il y a bijouterie.
Il y a un petit peu tout le monde. Ça part du tourneur sur bois, bijouterie. Il y a quelques potiers qui ont voulu rester à l'extérieur. Il y a des gens qui font du miel, qui font beaucoup de choses quoi. Et voilà, de l'artisanat. Mais c'est des gens qui sont artisans. On tient à garder des gens qui sont déclarés en tant que quoi.
Et puis voilà. De l'autre côté il y a votre fer de lance, hein, le métal. Coutelier, là vous allez être une sacrée tripotée.
Ben, là sur le château, ils sont 60 couteliers, 64 même exactement. Il y a une quinzaine de céramistes à l'intérieur du château, quelques bijoutiers, et puis après toutes les démonstrations. Quoi.
Alors les démonstrations, oui, j'ai dit des mots que je ne connais pas.
Ben déjà, il y a le samedi, il y a le Cadouze qui vient avec. Ils font des démonstrations de tatara, c'est-à-dire tout ce qui est artisanat japonais au niveau du sabre. Donc déjà le samedi ça va être la fabrication du métal, là ils vont brûler 350 ou 400 kg de minerai. L'année dernière on avait fait une loupe avec ça qui faisait 250 kg de métal. Et le dimanche ils vont forger un sabre, le tremper en fin de soirée. Après il y a une démonstration de damas aussi. Il y a une démonstration sur le damas, il y a quelqu'un qui vient aussi là, sur le côté de la forge médiévale, il y a quelqu'un qui vient aussi faire des girouettes. Il y a des gens qui vont venir aussi expliquer tout ce qui est lame longue quoi, au niveau épée. Ils fabriquent, ils sont de Carcassonne, quoi. Ils fabriquent tout ce qui est la grande épée. Donc ils vont venir un côté pédagogique et certainement faire de la démonstration d'escrime médiévale. Donc un petit peu d'animation quoi, sur le week-end, quoi, entre samedi et dimanche. Quoi.
Rien que ce que vous avez dit là, donc les sabres, donc il faut les plonger là dans l'huile, dans l'eau.
Les trempes dans l'eau. Le côté rigolo de l'histoire là, avec Dominique, quoi, c'est-à-dire que la trempe va se faire dans un aquarium. C'est-à-dire que les sabres sont forgés. Un sabre est forgé droit, que ce soit les sabres japonais ou même ici en Europe les sabres de cavalerie et compagnie. La forge est droite. Hein, la pièce prend la courbure au moment de la trempe. Donc, en même temps, quoi, le plongeant dans l'aquarium, comme c'est vitré, on voit la gestion de la courbure au niveau de la pièce. Quoi. Donc, voilà, il y a un côté sympathique vis-à-vis de tout ça. Quoi.
Et le damas, c'est comme quand on fait de la pâte à modeler, qu'on met des couches et des recouches et des recouches.
Oui, c'est une grosse pâte feuilletée, oui, voilà, ouais, c'est ça. Quoi. On plie, on replie, on replie. Quoi.
Plein de démonstrations, donc, et puis des exposants qui vous viennent de partout. Hein.
Ah là, au niveau couteau, en plus cette année, on a la chance d'accueillir des copains là, qui reçoivent une délégation du syndicat des couteliers corses. C'est pareil, ils ont monté ce syndicat parce que chez eux, ils se faisaient un peu tout et n'importe quoi avec un gros cahier des charges au niveau de la fabrication de leurs couteaux. C'est-à-dire que tout doit être forgé chez eux avec au maximum de matières qui viennent de Corse. Et revendiquer d'un travail effectué sur place, quoi. Contrairement à beaucoup de lames qui viennent de Pétaouchnok, comme on dirait chez nous, quoi, et qui sont vendues en tant que coutellerie corse. Alors que là, voilà, quoi. Donc eux, ils arrivent à 4. Après, il y a des gens qui viennent de Bretagne, qui viennent un petit peu partout de la France. Il y a 2 ou 3 personnes qui arrivent d'Espagne. Donc voilà, quoi. On commence à dépasser les frontières, quoi.
Il y a autant de couteliers que de spécialités différentes?
Un couteau reste un couteau sur le principe, quoi. Mais le problème, c'est que chacun a sa patte, quoi. Donc, on a beau faire un couteau, chacun va mettre sa main. C'est comme la peinture ou d'autres. Alors, c'est vrai que nous, on n'aime pas trop se laisser appeler coutelier d'art, comme on veut nous cataloguer un petit peu. On reste quand même des artisans à la base, quoi. On fait un couteau utile, quoi. Mais après, bon, voilà, chacun a sa patte. Les matières, il y a moyen de faire des choses complètement différentes. Sur les damas, les faire parler de manière différente aussi. C'est un panel qui est quand même relativement large, quoi.
Et puis lors de cette fête du feu et de la terre, donc de Nègrepelisse, on va pouvoir parler avec vous, justement, les artisans, et pouvoir s'approprier ces couteaux. On va pouvoir les tester, les tripoter. Non, on a le droit quand même.
Alors on va les toucher, oui. Voilà, bah, oui. Si, enfin, après, ouais, sur le principe, enfin, normalement, il n'y a pas de souci. Oui, on peut toucher le couteau. Oui. De toute façon, le couteau, il fait quelque part, quoi, c'est un outil voilà, qu'il faut s'approprier de toute manière. Quoi. Donc en principe, il n'y a pas de problème, on a le droit de toucher le couteau, oui.
Et puis pour le reste, bah tout est faisable. Ça va sentir le feu. ça va marteler, ça va faire beaucoup de bruit
en
là.
En moyenne, on brûle 3 palettes de charbon, quoi. Donc on fait un petit peu de feu, oui, effectivement.
Vous en forgez sur place. Ça met combien de temps pour forger un couteau?
Alors la forge, pas la même. Si on fait avec du damas, ça peut prendre énormément de temps. Ouais. Parce que tu vois les pliages comment y mettre pour faire une lame, quoi. Ça peut prendre, ça peut prendre même des jours, quoi. Mais après, une forge, même sur une grosse lame, avec un tantinet d'extérité, quoi, ça va prendre... allez, à la louche, ça va prendre 2-3 heures maximum, quoi. Mais après, suivant c'est pareil, la difficulté de la pièce. Mais le gros travail, après, c'est sur le côté traitement thermique et puis sur le montage après derrière, quoi.
Le montage.
Ben, il faut mettre un manche, hein. Enfin, sur un couteau droit, il va falloir mettre un manche, faire une garde, il y a tout un...
L'aiguisé.
Après, il y a une ergonomie à respecter aussi dessus. Les couteaux pliants, il faut faire un mécanisme, donc il y a tout le système de ressort, suivant les types de ressorts, que ça soit un crâne forcé, un crâne plat, ou un couteau à pompe, il y a quand même pas mal de mécanique, hein, d'ingénierie à faire dessus, quoi. Donc après, le gros travail, quoi, et surtout sur le montage, après.
Et alors le feu, on comprend, hein, bah vous êtes coutelier, la terre, hein, pourquoi la terre? Vous faites du feu et de la terre.
Le feu et la terre, bon déjà on a les potiers, les céramistes qui sont avec nous, donc c'est les gens qui travaillent la terre. Nous on travaille aussi avec la terre, parce qu'on fait voilà, quoi, les fours, comme fait Dominique là, au niveau des tatarans, ou même les petits fours celtes comme on travaille nous, quoi, elles sont montées en terre crue.
Je vous coupe là, mais il faudra revenir, tu tatara, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais j'ai toujours pas compris ce que c'était.
Le tatara, c'est un gros four qui est monté en briques crues, avec des tuyères, quoi, qui amènent de l'air à l'intérieur. Et après, donc, on met du charbon de bois à l'intérieur. Et après, une fois que le four est très chaud, on fait un mélange charbon-minerai. C'est-à-dire, enfin, s'il y a un kilo de charbon, on met un kilo de minerai. Enfin, on n'est jamais dans cette eau-là, mais enfin, on met à charge égale charbon et minerai, et tout ça, jusqu'à ce que le morceau de métal monte au niveau des gueules des buses. Qui amène de l'air, quoi. Après, une fois que c'est une fois que ça arrive au bus, de toute façon, on ne peut pas aller plus haut. Et donc, voilà, quoi. Donc, on fabrique le métal comme ça, quoi. Le minerai se fond et on fabrique le métal.
Donc, je viens vous couper en plein milieu de vos explications autour de la terre. Alors, oui, effectivement, là, on comprend.
Et la terre, nous, on est dedans. De toute façon, pour faire les fours, dans les forges, souvent, il y a des réfractaires à l'intérieur, c'est pareil, quoi. Donc, la terre, on est tout le temps un petit peu dedans, quoi. On se sert aussi de l'argile. Pour faire certaines trempes sélectives sur la lame, c'est-à-dire qu'on fait une gangue d'argile sur le dos de lame pour protéger le dos, c'est-à-dire que ces argiles réfractaires qui servent à protéger de la chaleur quand on met dans le feu, et après quand on trempe la lame dans le liquide, que ce soit huile ou eau, l'argile fait l'effet inverse, c'est-à-dire que le tranchant va se refroidir beaucoup plus vite, donc prendre davantage de dureté. Par contre, l'argile va protéger du froid aussi après, derrière. Et donc, la trempe va prendre moins profondément dans le dos de la lame et garder de la souplesse. Donc, ça fait une lame avec densité de dureté, quoi.
Et alors, ça sert à quoi?
Ben, c'est-à-dire que, on a tendance souvent à l'heure actuelle à employer des aciers relativement durs. Et le problème, c'est que si on trempe la lame complètement, souvent quoi, sur des grosses lames ou des lames qui sont faites pour travailler un petit peu en porte-à-faux et compagnie, on risque d'aller à la casse. Donc en gardant, en trempant un petit peu moins le dos, on gagne beaucoup de souplesse et donc enfin, voilà, on se sort de ce côté de casse, quoi.
Et quand vous parlez, donc vous cramez le charbon et les minerais, donc c'est du fer.
C'est bien du fer, en principe c'est de l'hématite. Alors là, Dominique, lui, la ramène sur le Larzac et sur le côté du Nord-Aveyron. Nous, ici, on va aller chercher sur Morondon-l'Abbé-Saunier, quoi, pas tout à fait sud d'Aveyron, de Tarn, je veux dire, au-dessus de Ralmoul. Et voilà, donc dans les anciennes mines de fer, on va récupérer les minerais. Après, il faut le faire griller, le monter à 800 degrés pour le rendre rentable. Après, le concasse et après, le métal des fours.
C'est-à-dire que tout disparaît, sauf donc vraiment l'essence, le métal en lui-même, qui va finir par fondre et devenir...
On fond les cailloux, entre guillemets, pour fabriquer le métal. Quoi. On sort l'oxyde de fer qui est à l'intérieur du minerai. Quoi.
Vous avez dit 300 kilos
et là, on va tourner entre 350 et 400 kilos. L'année dernière, on a fait le morceau qui sort s'appelle une loupe. On a fait une loupe de 250 kilos de métal l'année dernière.
250 kilos de métal en ayant cramé combien de
450 kilos de minerai.
Ah, quand même.
Sur le pays, on a des minerais quand même qui sont relativement riches. Si on traite les fours comme il faut, on arrive quasiment à faire 50-50. Quoi.
Plein de démonstrations.
Ouais, un peu de feu.
Et plein de trucs à apprendre dans un domaine réservé aux initiés.
Mais là, les gens qui sont là sont aussi sur le côté pédagogique pour expliquer aux gens ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une équipe qui brûle le métal, le minerai. Mais enfin, après, eux, ils ont des anciens avec eux là, qui sont là pour expliquer ce qui se passe au niveau... Parce que bon, enfin, c'est quand même un tantinet d'alchimie, cette histoire. Et donc, ils sont là pour expliquer tout le processus, les changements le changement de la matière. Tout sera expliqué de toute façon. Quoi.
Et puis, on peut parler avec chacun de vous, hein, chacun de couteliers, d'artisans, de potiers, de céramistes, hein, vous avez chacun votre patte, chacun votre savoir-faire, et peut-être chacun votre manière d'expliquer les choses.
Oui, ben on est tous là pour expliquer notre art, entre guillemets, notre métier. Quoi. Mmh. Ça, c'est personne, enfin, voilà, quoi. Une personne est avare de discussion à ce niveau-là. Quoi. De toute façon, on a plein de choses à raconter, de toute manière. Quoi. Donc, voilà. Quoi.
Faudra venir ce samedi et ce dimanche, l'entrée est gratuite.
L'entrée est gratuite, oui.
Et tout se passe donc sur l'esplanade du château et à l'intérieur.
Soit sur l'esplanade dehors, sous les platanes, ou sinon après à l'intérieur de la cour. Quoi.
Pour une centaine d'exposants, donc couteliers, potiers, céramistes, plus... Le marché des artisans.
D'artisans cadeaux. Oui.
Qui sont, eux, très divers, plein de démonstrations tout au long de ces deux jours. De quoi se restaurer sur place?
Oui, il y a de quoi manger sur place, oui, voilà. Il y a deux stands de restauration. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui vient avec des churros pour les enfants, avec les glaces et compagnie. Puis voilà, il y a la buvette. Mais ça reste un endroit convivial, de toute façon, quoi.
Pour les fragiles, prenez votre masque et vos bouchons d'oreilles parce que ça va taper sec pour cette donc quatrième fête du feu et de la terre du côté de Nègrepelisse. Initié notamment par vous, hein, Thierry Reynal, qui est coutelier à Nègrepelisse. Je vais vous laisser le mot de la fin.
Mais là, avec moi, je suis. Enfin, voilà, quoi. Nous sommes quand même quatre dans l'aventure, quoi, avec trois autres collègues. Ouais, Jésus Granda, le président, avec Cyril Eguezias et sa compagne. Ils sont eux aux commandes du secrétariat et de la finance, si on peut dire. Et puis voilà, quoi.
On a besoin.
Puis après, tous les bénévoles qui nous donnent un coup de main, les enfants, les copains. Et puis voilà, quoi. Donc on est quand même une petite bande de joyeux lurons, quoi.
petite bande, je crois que ça fait du monde sur la place qui mange le sanglier à la broche le soir.
Le vendredi soir, oui. Le vendredi soir, enfin, c'est l'accueil de tous les gens qui viennent de loin, quoi. Et donc, voilà, quoi. Donc on fait un petit repas à la gauloise, un peu pour en fournir, quoi. Et puis après, bon, le samedi soir, il y a le repas de tout le monde quoi, qui se passe à la salle Aimé Padier au village, avec une petite animation musicale. Quoi, et voilà, quoi, donc le côté convivial. Quoi. Et le dimanche soir, après manger le reste. Hein. Ceux qui sont de loin, qui repartent après. Quoi.
Et qui viendront l'année prochaine, encore une fois, doublant donc, la taille des exposants. Là, c'est là.
Ouais, le problème, c'est que le château, on ne va pas pouvoir fondamentalement écarter les murs pour les mélanges. Quoi. Déjà, cette année, on est obligé de mettre des barnums un petit peu partout pour loger les gens. Quoi. Ça va être compliqué après.
Fête du feu et de la terre à Nègrepelisse ce week-end. On vous retrouve là-bas, Thierry Reynal. Merci beaucoup.
Écoutez, on vous attend à tous. Quoi. Merci.